Le silence des petits papiers, chapitre 36. Gaël Vidal et Leslie Dubosc ont décidé de vivre ensemble dès le lendemain de leur découverte macabre au cirque de Saint-Même. Ils ont considéré qu'il était urgent de consolider leur histoire commune. L'épisode dramatique les a soudés davantage. Un peu de leur insouciance s'est envolée derrière la cascade. Ils ne parlent jamais du cauchemar éveillé qui les a surpris dans leur jeu amoureux. Chacun y pense séparément, sans jamais oser en parler à l'autre. L'identité de la victime n'ayant pas été révélée, Jean-Christophe décida d'appeler Gilbert Brunel, le journaliste qu'il avait rencontré au nouveau siège du journal. Ce dernier absent, il laissa un message sur son mobile. Celui-ci le rappela quelques minutes plus tard. Il ne souhaita pas s'exprimer par téléphone sur les suites de son enquête. Il lui déclara qu'il avait un article de fond en gestation, rajoutant que c'était du lourd. Gilbert se rendait au village le lendemain. Il proposa une rencontre à cette occasion. Ils se retrouvèrent comme convenu au bar du bourg. Toujours aussi dynamique, le journaliste vint dans sa direction. Ils échangèrent quelques banalités avant de s'installer dans un coin isolé du bistrot. Jean-Christophe ne put s'empêcher de lui demander des nouvelles d'Elsa, sa collègue, à la plastique agréable. Il lui répondit qu'elle était de plus en plus resplendissante. Les goûts vestimentaires de la jeune femme pour les transparences réveillaient les rétines les plus endormies. Le café servi, ils commencèrent à évoquer les investigations du journaliste. Ses informateurs, ses recoupements, son intuition l'amenaient à penser qu'il s'agissait d'une affaire de grande importance. Il s'exprimait à demi-mot, mais Jean-Christophe décodait au fur et à mesure. Les deux hommes se comprenaient parfaitement. C'est à ce moment qu'ils aperçurent Joël Massard. Ce dernier s'installa au comptoir. Il commanda un café avant de donner un coup d'œil circulaire dans la salle. Lorsque son regard parvint jusqu'aux deux consommateurs installés à l'écart, il se dirigea droit vers eux pour les saluer. Gilbert et Joël se connaissaient bien. Jean-Christophe l'invita à boire le café ensemble. Tous trois abordèrent le sujet qui occupait la majeure partie de leur temps. Sans se dévoiler, l'écrivain n'avait pas convaincu ses interlocuteurs. Les chroniqueurs se doutaient qu'il s'agissait d'autre chose, mais l'homme leur plaisait et leur rencontre se transformait en relation amicale. Ils devisèrent un bon moment autour des cadavres découverts en Chartreuse et en avant-pays. Ils parlèrent aussi des incendies suspects des granges alentour. Jean-Christophe glissa subrepticement deux sujets supplémentaires. Il évoqua l'Alfa Romeo enlisé dans le marais et les affaires du maquignon Augustin Pinard. Cela relança la conversation. Joël leur confia que le fils Pinard lui avait confié que sa femme connaissait une des victimes. Il n'avait pas voulu se confier davantage, sauf qu'il avait clos ses propos en disant que c'était de l'autre côté des Alpes qu'il fallait chercher. Pinard Junior était passablement éméché ce jour-là, ce qui expliquait ce débordement chez quelqu'un habituellement peu bavard. Jean-Christophe fronça le sourcil. Il venait de réussir un joli coup. La chance lui souriait. L'air de rien, une pièce du puzzle venait de s'ajouter. Il était convaincu qu'un grand nombre de petits papiers avaient un rapport étroit avec Naples et sa région. Voici que maintenant, deux journalistes corroboraient sans le savoir son hypothèse. Il réfléchissait. Il récapitulait en silence les divers éléments en sa possession. Il se doutait qu'il venait de faire un grand pas. Il était conscient cependant d'être loin de la solution. Ils admirent qu'essayer d'interroger la famille Pinard serait la dernière chose à faire. Dans ce milieu, la loi du silence était la règle. De plus, leur relation familiale avec l'Italie renforçait leur penchant pour le secret. Il valait mieux chercher la faille tout autour de la forteresse plutôt que de l'attaquer de front. Jean-Christophe se mit en retrait. Il se dit que le journaliste d'investigation concernait Gilbert Brunel et Joël Massard. À la fin de la troisième tasse de café, les deux journalistes avaient scellé un pacte. Chacun préparait son article. Joël sur les incendies de grange et Gilbert sur les meurtres. Ils convinrent de se voir fréquemment et de faire le point sur leurs trouvailles. Quant à Jean-Christophe, il en resta là, se contentant de confier à Gilbert qu'il passerait le voir au journal un jour prochain. Il lui serait agréable de rencontrer à nouveau la jeune Elsa. Il rentra chez lui. Il voulait faire le point sur ses trouvailles des derniers jours. Il se demandait si l'accumulation de découvertes ne risquait pas de lui cacher autre chose. C'est pour cela qu'il désirait repasser le dossier en revue. Chaque détail aurait son importance. Cela faisait 5 minutes qu'il était arrivé lorsque la sonnette émit un son strident. Tonin, l'air grave, se tenait devant la porte. Jean-Christophe ne souhaitait pas l'inviter à pénétrer dans la maison. Son visiteur lui fit comprendre qu'il ne parlerait qu'à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Il le laissa accéder au vestibule, pas plus loin, car l'homme portait des bottes garnies de boue. Le battant claqua. Tonin donna un coup d'œil circulaire pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Ben ça, vous ne connaissez pas la dernière. »« Mon cher Tonin, c'est vous qui allez me la dire. »« Le Joseph Duraz, il lui en est arrivé une bien bonne. » « Expliquez-vous, cher ami, je veux comprendre. »« Ben ça, le Joseph, on l'a trouvé au fond du trou. »« Comment ça, au fond du trou? Il est mort ?»« Au fond du trou, je vous dis, même qu'il pouvait plus bouger. »« C'est Larsen qui l'a trouvé. »« Il m'a appelé et je l'ai aidé à le sortir de là. »« C'est quoi ce trou? Comment va-t-il ? » ?»« Oh, il est à l'hôpital, il s'est cassé la jambe. »« Ils lui ont mis un plâtre. » Ils veulent le garder au chaud quelque temps. Il paraît qu'il gueule tout le temps. Alors c'est qu'il va bien. Parlez-moi du trou où vous l'avez trouvé. Bah, j'ai cru qu'il avait creusé sa tombe. Sauf qu'il avait creusé 2 fosses, le Joseph. Donnez-moi plus de détails. Au fond du terrain qui touche la ferme, on dirait qu'il a creusé pour enterrer 2 personnes. C'est bizarre, il n'a rien voulu nous dire. Il avait picolé et a dû tomber dedans à cause du picrate. La terre était fraîche, alors il devait creuser depuis peu. Vous dites qu'il va rester plusieurs jours à l'hôpital, mais qui va s'occuper de ses bêtes et du chien? Je lui ai promis de les nourrir. Alors vous pouvez m'emmener avec vous, nous verrons ces trous. Maintenant, si vous voulez. Je mets des chaussures de jardin et je vous suis. Ils marchèrent 5 minutes avant de se retrouver dans la cour du blessé. Le chien, un corneau, était attaché à une chaîne qui coulissait sur un fil de fer tendu à hauteur d'homme. Il n'était pas bien méchant. Il jappait beaucoup. Tonin lui prodigua quelques caresses, tandis que Jean-Christophe contournait l'obstacle. Hors de portée de l'animal, il attendit son compagnon. Ils longèrent le potager à l'abandon, puis se dirigèrent vers le bout du terrain. 2 fosses se faisaient face à 10 mètres de distance. Ils examinèrent les 2 excavations. Tout laissait à penser qu'il s'agissait de fosses destinées à devenir des tombes. Jean-Christophe était perplexe. Il se demanda ce que manigançait l'irascible Joseph Duraz. Tonin lui expliqua dans quelle posture Arsène et lui avaient découvert le fossoyeur. Ce dernier râlait de douleur. Arsène passait dans le chemin qui longe les noyers à 150 mètres. Il dit qu'il est sourd comme un pot, mais là, il l'a bien entendu. Jean-Christophe en avait assez vu. Il ne souhaitait pas s'attarder chez cet original. Il se demanda si ce nouvel épisode avait un rapport avec ses petits papiers. Il n'en savait rien. Son intuition lui fit cruellement défaut. Même son sourcil ne daigna pas se froncer. Il remercia chaleureusement son guide et s'en retourna dans sa demeure. Il voulait faire ce point après sa rencontre avec les journalistes. L'accident de Joseph Duraz n'apportait rien de plus par rapport aux propos échangés avec les 2 investigateurs. Il s'agissait simplement de la chute d'un ivrogne dans une fosse. Il subsistait une interrogation sur l'usage que comptait en faire celui qui en avait creusé 2. Il se remémora les dimensions approximatives des cavités. Environ 1,80 m de long, 80 cm de profondeur et 60 cm de large. C'était la place nécessaire pour un homme de corpulence normale.